attendez, s'il te plaît. Donc j'aimerais bien qu'on écoute bien les paroles de ce chant. Manque le son.
C'est ma prière dans ma faim, mon besoin.
Pour remettre, s'il te plaît, depuis le début.
C'est ma prière dans ma faim, mon besoin. Mon Dieu est le Dieu qui pourvoit. C'est ma prière dans le feu, la faiblesse, l'épreuve, la douleur. Il y a une foi plus précieuse que l'or.
Je ne sais pas si vous connaissiez ce chant, Moi, je le connais en anglais et c'est la seule version que j'ai trouvée en français. Je trouve que les paroles sont très puissantes et c'est le chant qui m'a accompagnée cette semaine par rapport à ce que j'ai vécu ces derniers jours. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail. Mais pour commencer, le sujet de mon message, c'est le temps. Le temps, pas la météo, même s'il fait très chaud, mais je vais parler du temps, le temps qui passe. D'ailleurs, c'est le temps, pour définir le temps, c'est très compliqué. C'est un concept très, très complexe, on va dire, dans la science, dans la philosophie. On ne sait même pas trop comment définir le temps. En tout cas, je pense à ça parce que hier, avec Jérémy, nous avons fait nos 13 ans du mariage. Et voilà, les événements comme ça. Merci. 13 ans, oui. C'est des événements comme ça qui nous rappellent justement que le temps passe. Des événements marquants, quand on se dit « Ah oui, ça fait déjà 13 ans », on se dit « Oui, oui, le temps passe ». Et je vois ma fille qui va bientôt avoir 12 ans. Pour moi, c'était hier qu'elle était encore un petit bébé et aujourd'hui, je la vois au collège. Je me dis « Oui, le temps passe ». Le temps file. Je ne sais pas, vous connaissez cette expression, je pense, en français, je pense que ça se dit aussi « Le temps nous file entre les doigts ». En tout cas, en polonais, on dit ça. Et moi, j'aime bien cette expression. Et à chaque fois que je le dis, j'imagine, vous savez, les bébés, quand ils essayent d'attraper l'eau qui coule. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi, je travaille avec les enfants. Quand ils se lavent les mains ou quand ils prennent le bain, il y a l'eau qui coule du robinet. Ils essayent de l'attraper comme ça, avec leurs mains, comme si c'était quelque chose de solide. Donc, ils font ça, mais l'eau, elle continue de couler. Elle passe sur les côtés, elle traverse la main. Elle n'est pas solide, elle est trop liquide, elle ne reste pas dans la main. Elle file. Quand je pense au temps qui file, j'imagine ça en fait. On essaye de l'attraper, mais il continue de couler. Et moi, parfois, j'aimerais bien aussi de l'attraper et de le retenir un petit peu. Et en même temps, je me dis non, parce que Dieu a prévu chaque temps et chaque saison dans nos vies. Et il a fait chaque chose belle en son temps, dans le temps voulu. Et aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je dis effectivement, chaque période de ma vie a été belle. Donc, je ne veux plus retenir le temps, parce que je sais que chaque temps est voulu par notre Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais me baser sur le passage dans Ecclésiaste 3, de 1 à 11. Donc, on va lire ensemble ce verset, si on peut l'afficher. Ecclésiaste 3, de 1 à 11. Ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, je vais le lire. Je pense que vous le connaissez tous. Hein, c'est un passage qui est connu, qui s'appelle « Un temps pour tout ». Et il dit, « Il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles en moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. C'est un très beau passage qui nous explique que chaque chose a son temps dans notre vie. Chaque période, chaque étape, chaque événement fait partie du plan de Dieu. Il y a des moments de joie, mais il y a aussi des moments de tristesse. Et ils ont aussi été prévus par notre Créateur. Il y a le temps de naître, le temps de mourir, le temps de rire, le temps de pleurer. Il y a un temps pour la guerre et pour la paix, un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour démolir et un temps pour construire. Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Et je pense que comme dans la nature, on peut observer des saisons. On a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, mais on a aussi le jour et la nuit. On a le temps de la semence et de la moisson. On a le temps de la pluie et de la sécheresse. Et dans Genèse 8, 22, il est dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » C'est comme ça. La terre est faite comme ça, la nature est faite comme ça, il y a des saisons, il y a des saisons pour tout. Et je pense que c'est pareil dans nos vies aussi. Et quand on y réfléchit, quand on pense à nos vies, il y a des saisons et des étapes dans chaque domaine de nos vies. Moi, je prends encore l'exemple des enfants parce que je connais bien. Dans le développement de l'enfant, il y a des étapes. Il y a la petite enfance, il y a l'enfance, l'adolescence et la maturité. Voilà, c'est un schéma. Après, la maturité, bon, on l'atteint à un âge, c'est différent pour chacun, on va dire. J'ai même envie de dire, bon, il est prouvé que les femmes deviennent matures avant les hommes. Voilà, je dis ça juste comme ça. Mais voilà, il y a des étapes dans le développement. Il y a aussi des étapes peut-être dans notre carrière, on va dire. Il y a le temps de se former, le temps de l'éducation, et après on rentre dans la vie professionnelle. On a notre premier travail qui est, on va dire, en bas de l'échelle, mais après on monte en gagnant salaire aussi. Donc il y a des étapes. Il y a aussi des étapes dans la vie d'un couple. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, on dit qu'il y a 4 étapes importantes dans la vie d'un couple. Il y a la première étape, c'est la lune de miel, c'est l'euphorie de début. Après, il y a la phase d'exploration. Ensuite, il y a l'ajustement, c'est aller vers l'équilibre. Et à la fin, c'est l'engagement profond, la compréhension et l'appréciation mutuelle. Donc, dans le couple, il y a aussi des saisons. Et je dirais que dans notre vie, on est quelque part aussi contraint à faire face à des différents événements qui arrivent et que nous ne pouvons pas contrôler. Mais ils font partie de ces saisons qui sont prévues par Dieu. Donc, par exemple, la maladie fait partie d'une saison. Et la maladie, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. On est contraint de faire avec ce qui nous arrive quelque part. Et ma réflexion pour aujourd'hui, c'est à nous de choisir aujourd'hui comment on va réagir dans chacune de ces situations. Et je crois vraiment que si nous avons confié notre vie au Seigneur, si nous laissons le Saint-Esprit nous guider, si nous nous consacrons à respecter les valeurs de Dieu, nous allons vivre en harmonie avec son plan parfait. Et peu importe les circonstances, peu importe les événements, nous allons accomplir sa volonté et être en paix avec chacune de ces saisons. Et en parlant de tout ça, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter un peu mon témoignage et ce que j'ai vécu ces derniers mois. En septembre, j'ai commencé une formation pour devenir professeur des écoles. C'était mon désir depuis toute jeune et je me suis enfin décidée, j'ai senti que c'était le moment, même si c'était un grand défi pour moi. Et j'ai commencé donc à me former en septembre. C'était une formation à distance, donc je continuais à travailler à temps plein et dans mon temps libre, je préparais donc le concours pour devenir professeur des écoles. C'était une formation très très chargée, c'était vraiment beaucoup de travail pour moi, mais je suis restée motivée. Pendant plusieurs mois, j'ai travaillé dur, les soirs, les week-ends, parce que j'avais un but et je savais que voilà, avec l'aide du Seigneur, je pouvais y arriver. Autour du mois de février, j'ai fait une prière au Seigneur et je me rappelle que j'ai dit, Seigneur, j'aimerais trop pouvoir plus de temps pour mes révisions. J'y arrive pas avec mon travail, j'ai pas assez de temps, il y a encore une montagne de révisions devant moi. J'aimerais pouvoir ne plus aller au travail et être à la maison et pouvoir réviser. Bon, vous avez compris, le Seigneur a des drôles de façons de répondre parfois à nos prières, mais il a répondu. Donc vous savez qu'en fin février, j'ai eu un accident. Je suis tombée, j'ai fait une mauvaise chute à la patinoire et je me suis fracturée le coude droit. C'était une fracture très complexe et j'ai dû subir une opération qui s'est bien passée, mais qui a fait que j'étais handicapée de mon bras droit. Je pouvais pas faire grand-chose pendant plusieurs semaines. Je me suis retrouvée à la maison. Arrêt de travail et j'ai dit bon bah Seigneur bah tu m'as donné le temps pour mes révisions. En effet, Dieu a répondu. Je me suis dit d'accord, bah je vais faire ce que je peux et je passais mes journées à réviser. Je pouvais rien faire, j'étais inutile à la maison, inutile en tant que mère, épouse, je pouvais rien faire. Donc je me suis dit bon, au moins je profite de ce temps pour travailler mon concours. Et du matin au soir, j'étais dans ma chambre, dans mon lit souvent, et je travaillais. Je suis restée motivée jusqu'au bout, sauf que quelques jours avant le concours écrit, j'ai attrapé une grosse douleur dans l'épaule et dans les muscles de mon bras. C'était très, très douloureux et c'était vraiment quelques jours avant mes examens écrits. Et je me suis sentie découragée. Je me suis dit, oh, peut-être, non, au final, il faut que je renonce, il faut que j'abandonne. C'est mon corps qui dit non, je ne peux pas. Je ne me sentais pas du tout, je n'avais pas la force pour le faire. Mais le Seigneur, il m'a encore une fois, il m'a encouragée, il m'a relevée. Je me suis sentie vraiment portée aussi par les prières des frères et sœurs. Je vous remercie parce que vraiment, vous étiez là avec moi dans cette épreuve et je l'ai vraiment sentie. Et encore une fois, j'ai eu des encouragements avant d'aller à l'examen écrit. Et avec la douleur et la souffrance, j'ai dit, j'y vais et je vais voir ce qui se passe. Si je ne peux pas écrire, bah, tant pis, je saurai que c'est fini. Mais au moins, j'irai jusqu'au bout. Je suis allée aux examens. J'ai eu 3 examens écrits qui duraient 4 heures chacun. Pour vous dire, avec mon bras qui me faisait très mal, et bien sûr, je dois écrire avec ma main droite, c'était vraiment compliqué. J'ai dû enlever la telle pour écrire, et ma main, elle était toute faible. Mon bras, il avait aucune force, aucune. C'était très très dur. J'ai commencé juste à remplir les cases avec mon nom et les. Le numéro du candidat, ces choses-là. Et il y avait des toutes petites cases. Et je me rappelle que j'ai pris le stylo et j'avais la main qui tremblait. J'arrivais même pas à mettre les lettres dans les cases. Et je me rappelle, mes premières lettres, elles étaient toutes, elles étaient pas droites. Je me suis dit, ça commence bien. Pour un examen de professeur, ils vont voir ça. C'était mal parti. Mais je priais, Seigneur, aide-moi. Et à force d'écrire, ça allait de mieux en mieux. Et j'ai réussi à écrire tous mes 3 examens. Pendant 4 heures, j'étais là et j'écris tout ce que je pouvais. Et gloire au Seigneur, parce que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui m'a rendue capable de faire ça. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu la bonne nouvelle que j'ai réussi les examens écrits. C'était une très grande joie pour moi et je me suis sentie vraiment encouragée pour aller plus loin parce que ensuite j'avais les examens oraux à passer. C'était la deuxième étape. Et donc je me suis sentie très contente. Je me suis dit, c'est bon, je peux le faire. Et là, une autre attaque, je veux dire, une attaque de l'anémie, parce que j'ai su le même jour que j'ai la douleur que j'avais sentie dans mon épaule. Il y avait bien une raison pour ça, c'est que j'ai eu une complication à l'épaule qui s'est manifestée pendant que mon bras était immobilisé. Et du coup, ça a fait que je n'ai pas pu rééduquer mon coude comme il fallait. Et mon coude, il est resté coincé. Il est resté comme ça. Et en plus de ça, j'avais mon épaule qui était bloquée aussi. Donc, c'était encore pire qu'au début parce que là, je ne pouvais plus rien faire. J'étais un robot. J'étais comme ça. Je ne pouvais rien faire. Et un gros coup. Pour moi, j'ai appris que je dois à nouveau me faire opérer. Bon, c'était dur, mais c'est comme ça. Je me dis, j'accepte, c'est comme ça. Sauf que, on a prévu mon opération dans la même période que mes examens oraux. Comme par hasard, mon opération, ça tombait entre les deux oraux. Donc, pareil, à nouveau, un gros coup de découragement. Je me dis, cette fois, c'est compliqué. Je ne sais pas si je peux le faire. Une opération chirurgicale avec l'anesthésie, c'est pas facile. C'est de la fatigue, c'est de la souffrance physique, c'est des douleurs. C'est très, très compliqué. Je l'ai vécu une fois. Je savais que la deuxième fois, ça va être pareil. Donc, je me sentais pas du tout passer les examens oraux. La date de mon opération, c'était autour du 15 mai, je crois, le 15 mai. Et donc, 2 jours avant, j'avais un oral. Et la semaine d'après, c'était peut-être 4 jours plus tard, j'avais un autre oral. Donc, pour vous dire, j'étais vraiment, vraiment pas dans l'état, en état pour passer des examens. Et à nouveau, je me suis sentie encouragée, portée par les prières, par les frères et sœurs, par la famille, par des amis. Même, je dois vous dire, parce que c'était important pour moi aussi, même des personnes non-croyantes, elles m'ont tellement encouragée et ça m'a portée. Et il y a ce verset qui m'a vraiment parlé dans cette période-là. C'était Éphésiens 3:20 qui dit que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et c'est le chant qu'on a chanté aussi, c'était le chant qui dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons. Et ça, ça m'a tellement touchée parce que je me suis dit, moi, je me fais mes projets, j'imagine des choses, je voudrais accomplir quelque chose. Et pas seulement Dieu, il peut le faire, mais il peut faire encore plus. Il peut faire infiniment au-delà de ce que moi, je demande ou ce que j'imagine. Donc vous connaissez déjà la fin, vous savez que donc malgré toutes ces difficultés, toutes ces combats, malgré que ça a été très très difficile pour moi physiquement, émotionnellement, et je me sentais vraiment pas à la hauteur. Je me disais, j'ai pas réussi à faire tout le programme que je voulais, comme je voulais. Moi, je suis assez perfectionniste dans ce que je fais. J'essaye de faire vraiment au mieux, et surtout en ce qui concerne les études, la scolarité. J'ai toujours essayé d'avoir les meilleures notes. Et là, je me disais, non, mais je ne suis vraiment pas, je suis pas à la hauteur. Je ne maîtrise pas tout ce qu'il fallait apprendre. À nouveau, je priais. Et je me disais, Seigneur, toi, tu peux le faire. Moi, je ne peux pas, mais toi, tu peux le faire. Et j'ai réussi mes examens oraux également. C'était une grande, grande joie, même, je dirais même une surprise, parce que je pense que tout le monde autour de moi y croyait plus que moi-même. Je pensais ne pas réussir et j'ai eu la très, très bonne nouvelle. J'ai trouvé mon nom sur la liste des candidats admis au concours. J'étais 5e sur la liste. Voilà, gloire à Dieu, c'est incroyable, c'est lui qui l'a fait. Et vous savez, donc j'étais dans une grande joie, j'ai dit, Seigneur, c'est incroyable. Je me disais, mais comment c'est possible, tu l'as vraiment fait. Et j'étais heureuse, je disais, mais c'est magnifique. Et j'étais aussi très sûre de moi parce que comme j'avais une bonne place sur la liste, sur le classement, j'attendais aussi mon affectation. Vous savez, comme dans la fonction publique, les professeurs, on ne choisit pas où on va, on ne choisit pas l'école, ni même le département, ou plus ou moins. Et moi, je me disais, ils vont respecter mes vœux parce que j'ai une bonne place, j'ai une bonne... un bon classement. Et la grosse déception, une semaine plus tard, après les résultats, je reçois mon affectation, je reçois l'information que je serai affectée dans le département de l'Ain, qui était vraiment pas ce que j'avais souhaité. J'ai demandé d'être dans le Rhône. Et voilà, j'apprends ça et je me dis non, mais c'est vraiment pas ce que c'est pas du tout ce que j'imaginais, c'est pas à ça que je m'attendais. L'Ain, c'est très grand, ça peut être très très loin et j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais je vais me retrouver à faire 2 heures de route pour aller au travail, c'est juste pas possible, je peux pas le faire. Et à nouveau, un gros découragement, un gros coup de l'ennemi qui veut me déstabiliser, qui veut me décourager. Et aujourd'hui, au moment que je vous parle, je suis encore dans l'attente de savoir où je vais aller. Je ne sais pas, je ne connais pas l'endroit exact, je ne connais pas l'école où je vais aller. Mais je continue de prier et j'ai reçu ce verset, c'est Josette qui me l'a rappelé cette semaine dans un message et je vais vous le lire, c'est dans Daniel 2, 21, il dit « Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Il peut changer les temps et les circonstances. Et je choisis d'y croire jusqu'au bout. Et vous savez, cette semaine, je reviens un peu au chant que nous avons écouté. Il s'appelle le chant du désert. C'est un chant qui dit « c'est ma prière dans le désert, c'est ma prière dans le feu, dans l'épreuve, dans la douleur, c'est ma prière dans le combat quand la victoire semble éloignée. » Et ce chant dit que dans toutes ces circonstances, je choisis de louer, je choisis de me réjouir, je choisis de chanter, je déclare que Dieu est ma victoire et il est ici. Et sur tout ce pont, il est à la fin, vers la fin du chant. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisis de t'adorer. J'ai une raison de chanter. J'ai toujours une raison de chanter. Et dans toute ma vie, dans chaque saison de ma vie, je choisis de chanter et je choisis de l'adorer. Et c'était la prière que nous avons faite avec Jérémy cette semaine. On était découragés par des différentes situations et des circonstances et on s'est dit, mais on choisit de louer. On choisit d'être dans cette attitude de reconnaissance et on remercie le Seigneur. On a toujours une raison de chanter, on a toujours une raison d'adorer. Et cette histoire, vous savez, pour moi, c'est une épreuve, c'est un moment difficile à vivre. Mais je repensais à moi, j'aime bien m'inspirer des personnes qui ont vécu des histoires vraies que je connais, que je sais, que voilà, ça m'inspire. Et je me suis rappelée d'une personne qui a écrit un chant, un cantique, un vieux cantique. Je pense que vous le connaissez, ce cantique, c'est « tout est bien dans mon âme ». Je ne sais pas s'il est traduit comme ça en français. Oui, c'est ça. En fait, donc j'ai retrouvé le nom de l'auteur parce que je ne m'en rappelais plus. Donc l'auteur de ce chant, il s'appelait Horatio Spafford. Il vivait au 19e siècle, fin du 19e siècle. Il vivait à Chicago. C'était un homme d'affaires, croyant, qui aimait Dieu. Il avait, avec sa femme et ses 5 enfants, ils étaient croyants. En quelques années, la vie de cet homme a complètement basculé parce qu'il a perdu d'abord un de ses enfants, il a perdu son fils. Ensuite, il a perdu pratiquement tous ses biens dans un incendie. Et ensuite, il a envoyé sa femme et ses enfants, ses 4 filles, en Europe. Et donc, il devait les rejoindre plus tard, mais elles sont parties toutes seules sur un bateau. Et en fait, le bateau a coulé pendant ce voyage. Suite à une collision, le bateau a coulé et ses 4 filles se sont noyées. Il n'y a que sa femme qui a survécu. Et vous imaginez le désespoir de cet homme qui perd pratiquement toute sa famille, qui a pratiquement tout perdu. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a pris un autre bateau pour rejoindre sa femme en Europe. Et pendant qu'il était sur l'océan Atlantique, vers l'endroit où ses filles se sont noyées, il a écrit ce chant. Et ce chant, il dit « Quand la paix comme un fleuve m'inonde, quand les douleurs comme des vagues déferlent, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire tout est bien dans mon âme. » Et c'est tellement magnifique, et donc je me compare même pas à, je compare pas mes épreuves à ce que lui il a vécu, mais ça m'inspire tellement de dire que cet homme, dans le moment de la plus grande détresse et désespoir, il a choisi de louer le Seigneur. Et pendant qu'il pleurait ses filles, il a dit « tout est bien ». Est-ce que nous, on peut dire ça aussi, dans les moments difficiles de nos vies, est-ce qu'on peut toujours dire « tout est bien »,« tout est bien dans mon âme ». Et du coup, cette histoire, ça m'a rappelé une autre histoire. Je vous la raconte aussi, c'est aussi un autre chant. qui a été inspiré. Donc c'est un chant qui s'appelle « Tel que je suis ». C'est aussi un vieux cantique que vous connaissez. Et ce chant était écrit par Charlotte Elliot, qui vivait en Angleterre au fin 18e siècle. Et quand elle avait 32 ans, oui, elle est tombée très malade. Et pendant le reste de sa vie, en fait, elle est restée en grande faiblesse physique. Et dans les moments très difficiles où elle se sentait découragée, elle se sentait faible, inutile et rejetée, elle a écrit ce chant. Et c'est encore un autre exemple qui m'inspire, qui une personne qui, dans la souffrance, dans l'épreuve, dans le combat, elle choisit de louer le Seigneur. Et c'est aussi la décision que j'ai prise donc cette semaine. J'ai choisi de louer. J'ai dit, c'est pas grave, les circonstances. Il y a les saisons de nos vies, il faut les traverser, mais moi, dans ces moments-là, je choisis de louer. Et je choisis cette attitude de reconnaissance. Et je vais vous lire aussi le verset dans Philippiens 4, 6, il est très connu. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Et voilà, c'est ça la décision qu'on doit prendre dans chaque épreuve, dans chaque situation difficile. On doit choisir cette attitude de reconnaissance. Et vous savez, dans ce chant qu'on a écouté, le chant du désert, donc il y a tous ces couplets qui parlent du désert, du combat, du feu, de la douleur et de l'épreuve. Mais il y a un dernier couplet. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est le couplet qui dit « C'est ma prière dans la moisson ». Et ça m'a rappelé que oui, il y a peut-être la période de pleurs, la période, la saison où c'est très difficile, mais on sait qu'après, il y a la moisson qui vient. La moisson, la faveur, la provision qui coule en abondance. Et dans ces moments-là, je vais louer aussi. Je vais louer le Seigneur parce que c'est lui qui a fait tout. C'est lui qui fait toutes choses belles dans le temps voulu. Et donc, ça m'a rappelé aussi ce passage, le psaume 126, 5 à 6. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. C'est lui qui marche en pleurant avec un sac de semences, reviendra avec joie en portant ses gerbes. » C'est un verset que ma mère elle m'a dit plusieurs fois pendant cette période où ces dernières semaines où c'était difficile pour moi et que j'avais envie de pleurer. Et il est dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Il y aura ce moment de joie, il viendra, la moisson viendra. Et moi, je veux vraiment proclamer dans chaque situation de ma vie, dans chaque moment, si c'est un moment de joie ou si c'est un moment de tristesse aussi, je veux proclamer que j'ai une raison de chanter, j'ai une raison de louer. Et Dieu, il reste Dieu. Dans chaque situation, Dieu, il reste Dieu. Et quand je dis ça, en fait, ça m'a rappelé aussi, très rapidement, je vous dis une autre histoire. Je ne sais pas si vous connaissez une missionnaire anglaise qui est allée en Chine. C'était au 19e siècle, début du 19e siècle. Elle s'appelait Gladys Hayward. Et il y a un film, moi j'ai regardé ce film quand j'étais petite, c'est un très vieux film qui s'appelle « L'auberge du sixième bonheur ». Je ne sais pas si ça vous parle. Donc en fait, c'est un film qui raconte l'histoire de cette missionnaire anglaise qui est allée en Chine, qui a travaillé avec les pauvres, avec les orphelins, qui a même participé à, vous savez, cette coutume en Chine chez les femmes, et elles se bandaient les pieds à l'époque. Donc en fait, elle est allée aussi dans les petits villages où ça se pratiquait encore. Elle a aidé à arrêter cette coutume horrible. Et voilà, je vous raconte ça parce qu'à un moment donné, cette missionnaire, elle, elle emmène une centaine d'enfants. Elle doit les emmener en lieu sûr parce que c'est la guerre avec le Japon. Et ils doivent s'enfuir et en fait, elle les emmène dans un endroit où ils peuvent être en sécurité. Et ils doivent traverser, c'est un trajet, mais vraiment, c'est très compliqué. Ils traversent les montagnes, les rivières. Les enfants, ils n'ont même pas des chaussures, ils n'ont pas à manger. C'est très, très difficile. Ils partent plusieurs semaines comme ça. Et à un moment donné, elle est très découragée. Elle dit aussi, je ne vais pas y arriver. C'est trop dur. Et il y a un de ses enfants, des enfants qui sont avec elle, qui lui dit, mais tu nous as dit que Moïse avait traversé la mer. Et elle dit, oui, mais moi, je ne suis pas Moïse. Et l'enfant lui dit, non, mais Dieu est toujours Dieu. Et voilà, c'est avec ça que je veux vous laisser. Dieu est toujours Dieu. Dans chaque situation, choisissant de louer et de l'adorer, on a toujours une raison de chanter.